Habemus Papam.
Avec l'un des plus longs pontificats de l'histoire, puisqu'il dura 21 ans, Urbain VIII est l'une des grandes figures de la Rome du XVIIe siècle. L'historien et chercheur au CNRS, Francesco Beretta, nous parle de ce pape, né Maffeo Balbellini.
Il est issu d'une famille de marchands laurentins et il doit, comme il est le cinquième enfant de la famille, il est choisi pour la carrière ecclésiastique et il doit son ascension au sein de la curie très rapide à la fortune de son oncle Francesco qui réside à Rome et qui lui achète toute une série d'offices ecclésiastiques. Donc c'est une carrière classique qui l'amène rapidement après des études que tout ecclésiastique voulant faire sa carrière dans la curie faisait à cette époque-là, c'est-à-dire droit civil et canonique à Pise, qui l'amène à occuper toute une série d'offices jusqu'à arriver en 1599 à l'office très prisé de clerc de la chambre apostolique.
Cette ascension explique l'important népotisme qui sera pratiqué par Urbain VIII après son élection en 1623.
La monarchie pontificale est une monarchie élective et quand un personnage comme Maffeo Barberini, après que la famille s'est engagée pour lui aussi financièrement, arrive au trône pontifical, à l'époque du népotisme et de l'absolutisme tel qu'elle est à l'époque de l'élection d'Urbain VIII, le pape doit en retour enrichir la famille. Et Maffeo Barberini, Urbain VIII, donc, ne va pas manquer de le faire et le fera de façon à considérer comme assez extrême et par les contemporains et par les historiens, en créant cardinaux trois membres de sa famille. Son frère et ensuite le fils du frère va devenir le général des troupes de l'Église. Et beaucoup de ressources aussi des États pontificaux seront investies à la faveur des cardinaux néveux et notamment le pontificat va se terminer avec un grand pouvoir acquis par ses néveux et aussi une guerre contre les Farnèses autour du duché de Castro.
S'il est prêt à aider la famille, Urbain VIII aide aussi les artistes.
Urbain VIII est une personne très cultivée, il connaît le latin, le grec, voire même l'hébreu. Il écrit lui-même des poèmes et donc quand il devient pape, d'abord il y a une sorte de mouvement des esprits qui voit en lui le pape mécène, celui qui va soutenir la culture, même la nouvelle culture. Il s'entoure de lettrés, de philosophes, Gabriel Naudet, Jean-Jacques Bouchard et surtout il va soutenir toute une série d'artistes qui vont donner à Rome l'aspect baroque que nous connaissons. Il va charger le Bernin de réaliser les différentes œuvres d'art au sein de la basilique vaticane. Il va réaliser toute une série d'œuvres d'art pour l'Ornée. Il va construire les fontaines, la fontaine du Triton. Il y a Borromini, Maderno, qui travaille également pour construire le palais Barberini et d'autres, l'église de Saint-Charles aux quatre fontaines. Et il y a les peintres. Pierre de Cortone, qui va orner le Grand Palais Barberini. Il y a aussi des peintres étrangers, Van Dyck, Poussin, Velázquez, qui travaillent à Rome à cette époque-là.
Mais derrière la façade attrayante du mécène, Urbain VIII n'en reste pas moins un pape de la contre-réforme.
On a oublié, parfois, que Urbain VIII est aussi un pape inquisiteur. Lorsqu'il est devenu pape, il est devenu en même temps donc, chef de l'Inquisition. C'est un pape un souverain absolu qui veut tout lire, tout ce qu'il signe, qui veut tout contrôler. Et donc, il devient aussi vraiment le chef de l'Inquisition. Et cette mission de la lutte contre l'hérésie, en tout cas d'une gestion bien stricte de la réforme catholique ou de la contre-réforme, est au cœur de son pontificat.
C'est ce double visage d'Urbain VIII, à la fois mécène et gardien du Temple, qui conduira à l'affaire Galilée. Assez étonnamment, les deux hommes, Galilée le savant et Urbain VIII le pape, se connaissaient depuis longtemps.
Galilée, qui était entre guillemets, un obscur professeur de mathématiques de l'université de Padoue. Du fait de ses découvertes astronomiques en 1609, donc du fait de ses découvertes, il s'est retrouvé projeté philosophe personnel du grand-duc de Toscane. Et en même temps, il affirme la vérité de l'héliocentrisme. À cette époque, il noue des relations épistolaires avec le cardinal Barberini, qui, lui, de son côté, a fait sa belle carrière ecclésiastique.
Bien que mécène, le pape ne peut accepter toutes les théories scientifiques.
D'une part, Urbain VIII est prêt, comme mécène, à soutenir les recherches de Galilée, ses publications. De l'autre côté, il faut préserver l'orthodoxie religieuse. Donc, il ne faut pas dire que la Terre tourne réellement. Cette position émerge clairement de la correspondance concernée Donc on peut dire que par hypothèse, on peut faire tourner la Terre, mais dans les faits, elle ne tourne pas, parce que la Bible dit qu'elle ne tourne pas et les théologiens disent ceci. Voilà. Donc lorsque Galilée essaye de publier son dialogue sur les deux grands systèmes du monde, en 1630, il va voir le pape. Le pape, par différents intermédiaires, lui accordera l'imprimatur. Simplement, il a posé quelques conditions. Il faut que Galilée, même s'il avance des arguments en faveur de la réalité du mouvement de la Terre, à la fin, il dise que Dieu a pu faire le monde autrement, et donc que le monde fonctionne tel que le décrit la Bible. Ce raisonnement est inacceptable pour Galilée, donc il va réfuter implicitement, à plusieurs endroits, cette manière d'argumenter d'Urbain VIII. Lorsque le livre sort à Florence, le pape, évidemment, est très fâché et il se sent trahi par le favori. Et ceci engage donc une réaction de la part du souverain trompé qui se découvre être en même temps suprême inquisiteur. Donc le pape va enclencher l'inquisition romaine dont il est le président et va ouvrir un procès contre Galilée. Et ce procès va aboutir à l'abjuration de l'héliocentrisme.
Pour le pape, c'est avant tout une victoire politique.
Avec ce jugement, Urbain VIII a fait plusieurs choses. Il a rétabli que c'était lui le souverain et que le favori avait mal joué son jeu. Et en même temps, il rétablissait la hiérarchie intellectuelle de la contre-réforme et affirmait cette stabilité structurelle de l'orthodoxie qui fait que les philosophes ont à se soumettre au discours des théologiens.
Toutefois, à l'époque, cette affaire n'en était pas une.
L'affaire Galilée a acquis une grande signification symbolique, surtout au XIXe siècle. De notre point de vue, c'est l'une des affaires les plus importantes du pontificat, mais ce n'est pas sûr que ça ait été vu de la même manière par les contemporains. C'était pas une affaire négligeable, mais c'était une affaire qui s'inscrivait dans un contexte où il y avait bien d'autres problèmes.
C'était l'historien Francesco Beretta qui nous parlait d'Urbain VIII.